Gloire à Dieu. Alléluia. Bon dimanche à tous et bienvenue à ce culte du dimanche 4 mai. Et nous allons aujourd'hui étudier les Écritures. Vous êtes prêts à entendre des belles choses ? Des choses qui transforment les vies, mais également qui vous donnent une responsabilité. Parce que quand des mots viennent à vous, vous devez vivre en accord avec les concepts qui vous sont donnés. Et en recevant la parole de Dieu, vous ôtez toute excuse d'échec dans votre vie. Ce qui veut dire que quand la parole de Dieu vient à vous, l'échec est annulé et tout échec dans lequel vous êtes encore est le résultat de la non-écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu amène que la réussite. Et donc, c'est un peu, c'est agréable, mais ça donne aussi un sens de responsabilité. Quand on est au courant de quelque chose, eh bien, nous n'avons plus d'excuses pour ne plus vivre dedans. Amen. Donc ça veut dire quand la parole de Dieu vient à vous et que vous vous rendez compte que vous pouvez marcher dans la victoire et dans la progression, si vous ne marchez pas dans la victoire et la progression, c'est votre responsabilité à corriger. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une belle discussion, mais je vais juste vous dire un petit quelque chose parce qu'on va parler bientôt, pas aujourd'hui, ni semaine prochaine, mais peut-être semaine d'après. Nous allons parler de la prière. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans les Écritures. Vous savez, nous, on dit prière en français. C'est un peu tout le seul mot qu'on utilise pour parler du ministère de la prière. Pourtant, si on regarde dans les textes grecs anciens, il y a plein de mots pour parler de prière. Plein. Et l'un d'eux, c'est de prier en suppliant, en mendiant. Vous voyez un peu l'idée ? Genre comme un mendiant. « S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, Seigneur. » Vous savez combien de fois il apparaît dans l'Ancien Testament, ce mot ? Une fois. En plus, ce n'est même pas adressé à Dieu, c'est adressé à quelqu'un d'autre. Vous savez combien de fois il apparaît dans le Nouveau Testament ? Donc la prière de mendiant, le fait de mendier à Dieu quelque chose, combien de fois ça apparaît dans le Nouveau Testament, vous pensez ? Aucune fois. Dieu a horreur qu'on mendie. Dieu a horreur qu'on vienne vers lui pour plaider une cause déjà gagnée. C'est pour ça que la prière de mendiant n'existe nulle part dans le Nouveau Testament. Donc les gens qui font « Seigneur, aie pitié de moi » et qui essaient de faire pitié à Dieu, c'est une insulte et un blasphème au Seigneur. Donc on a l'interdiction de mendier. Par contre, on peut, et ça il faut le savoir, on peut plaider une cause d'une manière spirituelle, mais c'est une maturité. Ce n'est pas le but de convaincre Dieu, c'est la loi de Dieu. D'ailleurs, on va parler semaine prochaine des trois lois. Oh là, ça va être merveilleux. Il y a les lois spirituelles globales qui s'appliquent à tout être humain. Il y a la loi de la mort, d'accord ? Enfin, la loi de Romains 8, 2 nous dit « car vous a délivré de la loi du péché et de la mort ». Donc il y a la loi du péché et il y a la loi de l'esprit de vie. Et donc il y a ces trois lois qui régissent un chrétien. Maintenant, une loi doit être mise en force. Certaines lois sont des lois physiques. Par exemple, regardez, la gravité est une loi, on est d'accord, hein ? Cette même loi a permis à des gens, par exemple, d'aller, je ne sais pas moi, d'aller au fitness, par exemple. Parce que la gravité, c'est une loi qui fait que quand ils lèvent des poids, ils deviennent plus musclés. Et cette même gravité, cette même loi, a fait que des gens ont ôté leur vie volontairement ou par négligence en se tombant d'un toit, par exemple. Vous voyez un peu l'idée ? Donc une même loi qui est universelle peut tirer des gens vers le succès et en tirer d'autres vers l'échec. Vous voyez un peu l'idée ? Donc il y a des lois spirituelles qui fonctionnent pour tout le monde, qui vont tirer, cette même loi va tirer personne X vers la réussite et personne Y vers l'échec. Vous voyez un peu l'idée ? C'est puissant, hein ? Les mêmes lois qui opèrent dans la vie de tout le monde, spirituellement, ça, j'ai parlé de la gravité, c'est une loi physique. Il y a des lois spirituelles. Par exemple, il y a une loi qui s'appelle semer et récolter. J'en ai parlé avec un ami il y a 2-3 semaines. Vous connaissez l'idée du karma ? Ça vous a dit quelque chose ? C'est un des trucs les plus stupides, mais les plus vrai en termes de proche de vérité. Vous savez ce que le diable y fait, hein ? Le diable, il existe, hein ? Ce qu'il fait, c'est qu'il prend les réalités de Dieu et il retire une partie. Vous voyez, hein ? Par exemple, quand il parle au Seigneur Jésus, il dit « Car ils ont dit, il a donné des ordres à ses anges de te garder. » Ça lui dit quelque chose, hein ? Si tu peux mettre Luc chapitre 4, on va juste garder ça. Tout le chapitre, on va juste garder ça. C'est intéressant parce qu'il faut comprendre comment l'ennemi opère. La Bible dit « Nous ne sommes pas inconnus à ses opérations. » Donc l'ennemi a des opérations. Vous voyez l'idée ? Donc, la Bible dit « Nous ne sommes pas ignorants des opérations du diable » parce que le diable est l'ennemi de nos âmes. La Bible dit dans Jean chapitre 10 et verset 10 qu'il est venu pour voler, égorger et détruire. Donc le diable n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire la vie des gens. Parfait. Et si on regarde Luc chapitre 4, on va voir comment il opère rapidement. D'accord ? Vous êtes prêts à voir les Écritures ? Parce qu'il faut comprendre que Dieu a en tête notre réussite. Et cette réussite-là implique qu'on puisse comprendre comment fonctionne l'ennemi de nos âmes. La Bible l'appelle l'ennemi de nos âmes. Vous savez ce passage, hein ? Donc il y a un ennemi qui nous empêche de vivre dans ce que Dieu a pour nous. Et quand on comprend que l'ennemi, il y a un ennemi de nos âmes qui veut notre destruction, eh bien on peut aussi comprendre comment il fonctionne et éviter de tomber dans ses pièges. La Bible dit que le diable tombe dans le piège qu'il a lui-même creusé. Ça vous dit quelque chose ? Ok, Luc chapitre 4. On va prendre la version NBS. Regardez, donc, Luc chapitre 4. Regardez ce qui se passe. On va juste dans le contexte, donc Jésus est rempli d'Esprit Saint, on va regarder le verset, le verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Et là, le diable, il va prendre un concept biblique, regardez bien, il va lire la Bible, le diable. Car il est écrit, donc là, il va mentionner un passage des psaumes, et il va dire, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le diable ? Le diable, il a pris une vérité biblique, regardez, il a pris une vérité, et il a enlevé une partie. Parce que le verset complet, il dit, afin qu'il te garde dans toutes tes voies. Donc, dans toutes tes voies, ça voudrait dire aussi contre le diable. Vous suivez l'idée ? Donc, ça veut dire que si le diable avait mentionné l'ensemble de la vérité, il se serait auto-exclu. Il se serait auto-expulsé de la situation. Vous suivez ? Donc, il a dit, afin qu'il te garde, c'est tout. Mais le passage complet de la Bible, il dit, afin qu'il te garde dans toutes tes voies. Donc, le diable a pris une vérité et il en a retiré quelque chose. Et c'est ça le problème, c'est que cette demi-vérité, elle fonctionne dans certains cas. Et après, les gens commencent à le croire parce que dans leur vie, ils voient une demi-vérité qui fonctionne. Donc pour reprendre l'idée du karma, c'est une demi-vérité parce que le karma prétend que quand tu fais du bien, il y a du bien qui revient vers toi. On est d'accord, hein ? Ou si tu fais du mal, il y a du mal qui revient vers toi. C'est une idée qui est très populaire parmi les jeunes. Et le problème, c'est que c'est basé en partie sur une vérité. Parce que la Bible dit que quoi qui est moissonné, tu récolteras. Maintenant, il y a quelque chose que le karma, il oublie. C'est quoi ? Et en fait, c'est une position très satanique, ça, parce que si on croit vraiment que le bien arrive aux gens bien et le mal arrive aux gens mal, si quelqu'un vit quelque chose de mal, on va automatiquement partir du fait que c'est une mauvaise personne. Alors que la réalité peut être complètement différente. Il y a des choses mal qui arrivent à des gens bien et des choses bien qui arrivent à des gens mauvais. Sachez-le aussi, hein, ça arrive. Donc, pourquoi est-ce que c'est une fausse vérité ou une demi-vérité ? Parce que le concept qu'on récolte ce qu'on sème est juste, n'est-ce pas ? Par contre, il manque toute une dimension du fait que quelqu'un d'autre peut semer dans notre vie. Vous voyez ? Quelqu'un d'autre peut venir... C'est pour ça que le karma manque. La vraie disposition biblique, c'est celui qui sème, récolte. Tu récolteras ce qui est semé. Notez bien, pas ce que tu as semé, ce qui est semé. Vous voyez la différence ? Donc ça veut dire que vous avez un jardin qui est votre vie. Et vous pouvez semer. Vous voyez ? Mais il y a des gens méchants qui peuvent venir semer des choses méchantes dans votre vie. Par exemple, il y a des gens très bien qui sont malades. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur qui sont quand même malades ? Parce que quelqu'un est venu semer la maladie dans leur vie. Des gens sont venus semer la pauvreté dans leur vie. Et en fait, c'est quelque chose qui a poussé. Et le problème avec le karma, c'est qu'on va dire ce que tu fais va te revenir. Mais la réalité de l'évangile, la réalité qui est en Jésus-Christ, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la vérité. Donc Jésus a toujours raison. Donc Jésus, il a précisé, attention, attention, quelqu'un peut venir semer, vous devez garder votre jardin. Vous voyez l'idée ? Il a dit, vous devez le garder. Quelqu'un peut venir et semer des choses mauvaises. Et l'une des manières dont les gens sèment dans votre vie, c'est par des paroles. La Bible dit que les paroles sont des graines. Donc vous pouvez semer une graine de réussite ou une graine d'échec. Mais quelqu'un d'autre peut venir semer dans votre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, faites attention à ce que vous entendez. Pourquoi est-ce qu'il a dit une chose pareille, Jésus ? Parce que si vous entendez une parole contre l'évangile de Jésus-Christ, qui vous dit par exemple, non, l'échec est possible, non, tu ne peux pas toujours réussir. Et ça va prendre forme dans votre jardin, ça va pousser. Et la référence aussi par rapport au karma qui manque, c'est que dans le fait de semer et de récolter, il y a l'aspect qu'une fois qu'une chose pousse, elle peut prendre des racines beaucoup plus profondes au fur et à mesure du temps. Vous voyez l'idée ? Et elle peut rester et devenir un arbre géant. Et ça peut être positif ou négatif. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui a... Vous savez, il n'y a personne qui naît pauvre. Parce que la pauvreté, c'est une attitude, comprenez ça. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui sont pauvres. Très pauvres. Il y a des gens qui ont plein d'argent. Vous savez, j'ai lu une statistique, les gens qui gagnent en Amérique, donc on ne parle même pas du coût de la vie en Suisse, hein, en Amérique, qui gagnent 100 000 par année, ce qui est beaucoup, hein, ça fait un peu moins de 10 000 par mois, pour l'Amérique. Sachant qu'en Amérique, un loyer n'est pas du tout le même qu'à Lausanne, par exemple. Vous voyez ? Et les gens qui vivent en Amérique, la plupart vivent de salaire en salaire, de mois en mois. Ils ne sont pas fichus de mettre de l'argent de côté. Pourquoi? C'est de la pauvreté. Il y a un esprit méchant derrière. Il y a un démon qui cause ça. Vous voyez? Qui cause les gens de perdre. Et pourtant, il y a des gens qui gagnent peu, mais qui arrivent à sortir de leurs dettes. J'ai vu une famille. La famille gagne un salaire correct, donc c'est-à-dire environ 8 000 par mois. Et ils ont réussi à sortir de 120 000 de dettes en 2 ans. En 2 ans et 2 mois, pour être précis. Comment c'est possible? Je suis calculé, ça fait près 7 000 par mois. Ça veut dire qu'ils mettaient tout leur salaire dans l'expulsion de leurs dettes? Non, c'est un esprit saint. Vous voyez, un esprit bon qui est derrière l'esprit de Dieu, qui les orientait sur comment gérer leurs finances. Donc, la Bible est claire, vos finances ne déterminent pas qui vous êtes, votre revenu ne détermine pas qui vous êtes. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes riche, point. La question c'est si quelqu'un a semé de la pauvreté en vous, ça peut grandir et prendre racine profondément. Et c'est pour ça que chaque fois, ça paraît être un effort considérable de briser certaines réflexions qu'on a. C'est pourquoi l'apôtre Paul il dit « renouvelez votre intelligence ». Il dit « pensez d'une manière juste comme le royaume ». Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire « c'est normal de tomber malade ». On est d'accord, les gens disent ça. C'est normal d'avoir une grippe, c'est normal. Pourtant la Bible est claire, elle a dit « nul ne dira dans mon peuple « je suis malade ». C'est intéressant. Hein. Donc, regardez, il y a cette histoire du karma qui dit que ce que tu fais te revient. Il y a une partie juste, mais la partie qui manque complètement, c'est que on doit aussi garder nos jardins. Prenez Genèse. C'est un passage que vous devez voir. Genèse, le jardin d'Éden, ça vous dit quelque chose, hein? Vous savez que votre vie aujourd'hui est un jardin d'Éden. Non, mais ça vient avec des responsabilités. Donc, vous dites « amen », mais regardez bien ce qui va suivre. Genèse chapitre 2. À partir du verset 7. Regardez ça. Genèse 2, 7. Oh, c'est pour ça que la Bible nous enseigne toutes choses, vous comprenez? Toutes choses. La Bible nous enseigne toute vérité. Sola scriptura, la Bible est suffisante, les Écritures sont suffisantes. Je suis pour la tradition. Vous savez, il y a des gens, des autres dénominations chrétiennes, notamment les catholiques et les orthodoxes, qui croient en ce qu'on appelle la tradition. On a déjà parlé. Hein. Moi, je crois en la tradition, je ne pense juste pas qu'elle est infaillible. J'ai aucun problème qu'une église fasse aller de l'encens, par exemple. Si c'est leur truc, c'est leur truc. Ou tant que leurs traditions ne vont pas contre les Écritures, je n'ai pas de problème. Mais par contre, ce n'est pas infaillible. Une tradition n'est pas parole de Dieu. Vous voyez l'idée? Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut construire notre vie. Nous, on a des traditions à Christ Embassy, à l'ambassade du Christ. On a des traditions. On n'applaudit pas pour Dieu, par exemple. Vous savez, les chrétiens qui aiment trop applaudir pour Dieu. Nous, on ne fait pas ça. C'est déshonorant d'applaudir Dieu. Vous voyez, c'est comme il y a des chrétiens qui vont dire « Nous te couronnons à Dieu ». Nous, on ne va jamais chanter ça. Comment est-ce qu'on pourrait dire à Dieu « Moi, un être humain, je vais te couronner ». Vous imaginez? Quelle horreur. Ok, Genèse 2, à partir du verset 7, qui nous dit « Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines un souffle de vie. » Dites « J'ai un souffle de vie ». Levez la main droite, dites « J'ai un souffle de vie ». Regardez ça. Et l'homme devint un être vivant. Regardez ça. Le Seigneur planta un jardin en Éden. Vous savez que votre esprit a été planté de belles choses. Dites « Mon esprit est plein de bonnes choses ». Et après, il précise du côté de l'Est. « Et il y mit l'homme qu'il avait façonné ». Donc Dieu a façonné un homme et il a mis un homme pour garder ce jardin. Dans ce jardin, excusez-moi. Le Seigneur, verset 9, le Seigneur fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden, regardez bien. Donc là, il va décrire un peu le jardin, un fleuve sortait, il y avait de l'or. Allons au verset 15. Verset 15. Regardez bien le verset 15. Hein. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le... Vous avez vu? Pour le... Ah, pour garder contre quoi? Contre qui? Le terme garder, là, c'est avoir une surveillance armée. C'est pas genre, vite fait. Non, c'est vraiment être activement en train de surveiller tout ce qui s'y passe et toute intrusion possible. Pourquoi? Parce que dans votre vie, il peut y avoir des intrusions externes qui viennent pour tenter de voler ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Prenez juste rapidement Jean 10, 10. C'est juste mon introduction, ça, vous allez voir. Jean chapitre 10 et verset 10. Alléluia. C'est pourquoi on vient à l'église, pour apprendre. Vous imaginez, si vous ne saviez pas ça. Imaginez, maintenant, vous savez ça. Vous savez maintenant que le diable essaye de faire des intrusions en vous. Vous voyez un peu l'idée? Maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir bloquer ces phrases contraires. Regardez, par exemple, si quelqu'un vous dit « rêve pas ». Quelqu'un vous dit « rêve pas, arrête de rêver ». Il n'y a pas de raison que tu puisses réussir dans ton travail, tu n'as pas de diplôme, par exemple. Hein. Vous dites dans le nom du Seigneur Jésus, je refuse cette parole sur ma vie. Je suis prospère à tous égards. Moïse n'avait aucun diplôme et il a conduit un pays dans la guerre. Jésus-Christ n'avait aucun diplôme et il a sauvé l'humanité. L'apôtre Paul avait un diplôme et il faisait du mal jusqu'à ce que Dieu le touche. L'apôtre Pierre savait à peine lire et la Bible dit que son ombre guérissait les malades. Vous imaginez ? Gloire à Dieu. Il dit au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. » Dites « J'ai la vie en abondance. » Alléluia. Maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans le message du jour. Gloire à Dieu. C'était juste une introduction pour vous montrer que vous êtes destinés pour la victoire. Vous savez, un arbre pommier va former des pommes. Un dattier va former des dattes. Je vais parler aujourd'hui du sujet de l'inévitable réalité. Dites l'inévitable réalité. Parce qu'il y a des choses inévitables, vous voyez ? Il y a des choses qui sont inévitables. Essayez de ne pas payer vos impôts, vous allez voir ce qui va vous arriver. Essayez seulement de défier la gravité. Dieu vous aime, mais si vous sautez d'un bâtiment sans aucune protection contre du béton, Dieu a beau vous aimer. Dieu a beau vous aimer de tout son cœur, je vous garantis que la gravité va fonctionner contre vous. C'est des choses inévitables, vous voyez un peu l'idée ? Qui sont des choses auxquelles on est constamment confronté. Donc moi j'aimerais qu'on parle de la réalité qui est inévitable, c'est-à-dire la réalité qu'on trouve en Dieu. 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre, chapitre 4 et verset 7. Ouh ! Regardez ce qu'il dit. Alléluia. Il faut regarder les Écritures. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Il nous dit, vous avez tous trouvé dans vos Écritures, 1 Pierre chapitre 4 verset 7, il dit, la fin de toute chose s'est approchée. Il dit, la fin de toute chose s'est approchée. Vous voyez un peu l'idée ? La fin de toute chose s'est approchée. Il n'a pas dit la fin de beaucoup de choses. Il a dit la fin de toute chose s'est approchée. Et il précise ensuite en disant, soyez donc. Il dit donc. Donc ce qu'il va dire, c'est lié à l'affirmation qu'il vient d'avoir sur la fin de toute chose. Il dit, soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Le terme pondéré, il est un petit peu mal compris. C'est littéralement marcher dans la sagesse. Soyez donc sages. Soyez sages. Il y a des gens qui marchent hors de la sagesse. La sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous conduit dans toute sagesse, dans toute réussite. Vous savez toujours quoi faire dans toute situation. C'est l'expérience de ma vie. Je sais toujours quoi faire. Quelle que soit la situation, je vais en sortir victorieux. Quelle que soit la situation ou l'attaque possible, je vais en sortir plus que vainqueur. Quoi qu'il puisse arriver, je vais toujours être dans le top du top et toujours progresser. Je vais que de l'avant, que vers le haut. Point d'échec dans ma vie. Je refuse l'échec. Je refuse la médiocrité. Je refuse la paralysie. Je refuse la stagnation. Il est exclu que je reste au niveau dans lequel j'étais. Je vais constamment aller de gloire en gloire parce que c'est ce que Dieu veut et c'est ma responsabilité de le faire arriver. Amen. Regardez, la fin de toute chose, absolument toute chose s'est approchée. De ce fait, Pierre nous invite à la prière et à la pondération. Regardez, la fin de toute chose, ça soutient presque l'idée du nihilisme. Alors juste pour la définition, le nihilisme, c'est une philosophie ou une doctrine, n'est-ce pas, selon laquelle il n'existe aucune vérité absolue, aucun fondement moral ou métaphysique stable, et que l'existence humaine est dénuée de sens objectif. Donc il y a des gens qui vont dire, il n'y a aucun sens dans la vie. On est comme ça sur Terre et on se balade sur un caillou dans l'espace. Et on fait nos trucs à nous. Regardez ça. Il y a une partie de vrai là-dedans. De nouveau, le diable a volé quelque chose. Vous voyez comme le diable opère, c'est toujours des concepts justes bibliquement et il enlève Dieu, en fait, il enlève toujours la variable Dieu du truc. Vous voyez ? Par exemple, les gens qui parlent des énergies positives. Pourquoi ils ne parlent pas de la puissance du Saint-Esprit, simplement ? Parce qu'il y a un aspect juste, l'énergie du Saint-Esprit est réelle. Philémon, chapitre 1, verset 10, 6, pardon, dit que ta foi soit énergisée, énergès en grec, énergisée par la connaissance de Dieu et par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc, il montre que l'Esprit de Dieu est l'énergie du Saint-Esprit. Vous voyez ? Il y a une énergie dans le Saint-Esprit, une force qui sort de nous. C'est pour ça qu'on rentre dans une pièce, les démons se taisent tout de suite. Vous voyez un peu ? On exerce l'autorité spirituelle. Et donc, de nouveau, ils ont parlé du nihilisme. Le nihilisme, c'est quoi ? C'est le concept selon lequel rien n'a d'importance. Maintenant, c'est de nouveau un truc où il manque l'aspect Dieu. Parce qu'il est vrai que sur Terre, il y a peu de choses qui ont d'importance. Par exemple, la voiture que vous conduisez aujourd'hui n'aura aucune importance quand vous serez au ciel depuis 1 milliard d'années. Vous voyez ? La maison que vous avez, les détails de votre vie quotidienne, où l'attachement aux richesses sont des choses qui porteront aucun fruit dans l'éternité, zéro. Et bien sûr, il n'y a pas de mal à avoir une belle voiture. Vous savez, Dieu peut utiliser une voiture pour vous parler. Amen. Ça veut dire qu'il peut utiliser tout et n'importe quoi pour vous parler. Soyez prêts à écouter l'enseignement qui vient de Dieu. C'est ça le truc, les gens ne se rendent pas compte, c'est Dieu qui parle la plupart du temps. Et ils prennent ça pour, je ne sais pas moi, une idée interne, vraiment une idée interne. Dites-moi pourquoi les animaux n'ont jamais d'idée interne. Parce que Dieu ne leur parle pas. Sauf quand il a parlé au travers d'un âne. Gloire à Dieu. Vous vous rappelez de cette histoire? Elle est quand même comique, cette histoire. Dieu a dû parler au travers d'un âne parce que le prophète refusait d'écouter. Ah là là, des drôles de personnages, n'est-ce pas? Donc de nouveau, le nihilisme est quelque chose qui n'est pas faux dans l'aspect où rien n'a d'importance sur Terre. Maintenant, le nihilisme a complètement enlevé l'idée de Dieu. Il y avait un homme qui s'appelait Salomon. Un homme fort, puissant, riche. Si seulement on apprenait de nos anciens, si seulement on apprenait de ces textes qui ont été écrits pour nous, la Bible dit qu'ils ont été écrits pour notre exemple. Si seulement on arrivait à se soumettre et à apprendre de ces gens. Et les gens qui veulent être riches, vous savez, il y a plein de gens qui veulent être riches. Surtout parmi les jeunes hommes aujourd'hui. Quand je dis les jeunes hommes, j'entends la génération des moins de 25 ans. Où leur idée de vie, c'est j'ai envie d'être millionnaire, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de me faire plein de fric. Et vous savez d'où ça vient? C'est parce que la société les a abandonnés. Les jeunes hommes aujourd'hui ne sont plus encouragés comme moi à l'époque. Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, on m'encourageait. Vous voyez? La société encourageait les jeunes hommes à être des mecs. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On les décourage à être des gens qui veulent produire. On les décourage à vouloir être plein d'ambition. Et donc le truc, c'est qu'ils vont se réfugier auprès de gens peu scrupuleux qui les encouragent dans l'idée qu'être un homme, c'est d'avoir un maximum d'argent et de coucher avec un maximum de filles. Ceci est entièrement faux. Un homme n'est absolument pas satisfait de ça. Et les choses étant, c'est que nous allons lire maintenant des textes de l'Ecclésiaste qui ont été écrits par Salomon, qui était l'homme le plus riche de l'histoire connue. Selon certains calculs, il avait une fortune de 5000 milliards de dollars. C'était l'homme le plus riche qui n'ait jamais été donné de comprendre. Il était tellement riche que pendant son règne, l'argent, donc le métal, n'avait plus de valeur. Vous imaginez, il est tellement riche que l'argent perd sa valeur, que il y a une déflation complète de la valeur du métal, l'argent. Vous imaginez un petit peu? Ça veut dire que la personne la plus pauvre du royaume, ou dans l'entourage de ce mec, s'il voyait un morceau d'argent par terre, il ne se baissait même pas pour le ramasser. Parce que la Bible dit qu'il prenait ça comme des pierres. Ça n'avait aucune valeur, c'était comme des pierres. Vous imaginez un petit peu le degré de richesse de cet homme? Et lui, il nous a écrit plein de choses. Lisons un petit peu dans Ecclésiaste, d'accord? Vous êtes prêts? Parce que ces gens-là ont quelque chose à nous apprendre. La Bible dit qu'il était si riche, cet homme, que sa maison était couverte d'or. C'était des tonnes d'or. Vous imaginez un petit peu? Ok, vous êtes prêts à lire? Ecclésiaste 3.11. Il écrit. Regardez bien. On va prendre la version Darby pour qu'on ait juste une traduction qui est très exacte. Là, il parle du Seigneur. Cet homme, il parle de Dieu. Il dit, il a fait toutes choses belles, on s'entend. Et il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Et on va prendre aussi la version, je crois que c'est la LSG, un instant. Parce qu'elle précise exactement ce qu'il en est. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, écoutez bien, il a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Notez bien. Donc il dit tout homme est confondé à l'idée de l'éternité. Tout homme sait qu'il y a un Dieu quelque part. Tout être humain sait qu'un jour ou l'autre, ils vont devoir rendre des comptes de leur vie. Tous les êtres humains savent ça. Les êtres humains qui disent « moi, j'y crois pas, je ne suis pas sûr, machin et tout, j'ai pas grandi dans une famille religieuse et tout », ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais au fond d'eux, ils savent pertinemment. Regardez le nombre de gens qui sont venus, qui ne sont pas en vacances aujourd'hui, mais qui n'étaient pas chrétiens, qui se disaient athées. Et ils ont tous dit « au fond de moi, je savais ». Qu'il y avait un Dieu. Les gens savent très bien qu'il y a un Dieu. C'est un jeu de penser qu'il n'y a pas de Dieu. Ok ? Et là, il dit, il a donné à tout le monde la pensée de l'éternité. Maintenant, on va prendre Ecclésiaste 2, 12. Ecclésiaste 2, donc c'est le même livre, mais juste le chapitre 2. Et là, c'est l'homme le plus riche, le plus puissant du monde. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. » Donc il dit, « J'ai d'abord été explorer l'idée de la sagesse. Ensuite, j'ai été explorer l'idée de la folie et de la sottise. » Car que fera l'homme qui succédera au roi ? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Donc il dit, j'ai quand même constaté qu'il y avait un qui était mieux que l'autre. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un l'autre le même sort. Donc ils disent bien sûr que c'est plus, une vie plus facile que d'être dans la sagesse, mais derrière, les deux vont mourir. Les deux vont finir dans une tombe, les deux vont finir avec les mêmes problèmes. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage ? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Donc il dit, tout n'est que vanité, rien n'a d'importance. Vous voyez, il a raison sur ce point. C'est-à-dire que dans le monde, les choses ont peu d'importance. Franchement, vous avez une voiture. Vous avez la plus belle voiture. Une fois, c'était un pasteur que je connaissais. Un pasteur. Et il a dû aller rendre la prière, prier pour un homme qui était gravement malade. Vous voyez, gravement malade. C'est un des hommes les plus riches d'Amérique. Et il était mourant dans un lit, incapable de répondre. Vous imaginez ? Un des hommes les plus riches d'Amérique. Il avait des centres commerciaux à plus en finir, qui lui appartenaient. Il n'était pas juste actionnaire, c'était à lui, à son entreprise, à lui. Et il est mort, comme n'importe qui. Vous voyez l'idée ? Et c'est là ce qu'il soutient, là. C'est très intéressant, écoutez bien. Regardez ça. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi, le sage meurt aussi bien que l'insensé. Donc là, il est en train de dire, qu'est-ce qui a l'importance dans la vie ? À quoi bon être sage ou insensé ? Qu'est-ce que ça va changer ? Il explique ça. Il explique, et il ne parle pas de la sagesse de Dieu, attention. Hein. Il ne parle pas du fait d'être de sagesse en Dieu, il parle du fait de se cultiver, par exemple. Il dit, à quoi bon ? Regardez, j'ai dans le cadre de mes affaires, j'ai dû prendre contact avec quelqu'un en disant, ah, j'aimerais bien parler avec telle personne. C'est un des hommes les plus riches du Ghana, de loin. Et je voulais lui parler de quelque chose, parce que j'ai accès à cet homme et on devait discuter d'un truc pour le travail. Et j'ai parlé avec la personne qui le connaît très bien, elle m'a dit, il est mourant sur son lit, hein. Un des hommes les plus riches. À quoi bon avoir des richesses si derrière on meurt comme ça ? Vous imaginez ? Continuons l'étude des bibliques. Hein. Ecclésias 5, à partir du verset 10. Donc vous voyez que ce mec, il écrit... L'auteur de l'Ecclésiaste écrit sur toutes ces choses. Il écrit sur l'idée de la vanité. Il dit tout n'a rien d'importance. Vous voyez ? Il dit la voiture, si je mettais en termes modernes, la voiture que vous conduisez, allez, dans 3 ans, elle a perdu sa valeur. La maison que vous avez, peut-être dans 200 ans, quand vous serez mort, elle sera détruite pour faire un parc immobilier. La famille que vous avez faite, quand vous serez mort, vous n'aurez aucun contrôle sur vos arrière-arrière-petits-enfants. Ça se trouve, ils vont faire n'importe quoi. Il y a un grand évangéliste américain qui s'appelait Oral Roberts. Il est décédé maintenant, c'est un homme, un grand homme de Dieu. Déjà, il était très grand en taille, il faisait 2 mètres. Il était énorme, il était gravement musclé. Et en fait, c'est le premier qui a manifesté à la télévision les miracles en direct. Donc il faisait des miracles et il les montrait en direct à la télé, en direct ou peut-être en différé, mais dans le sens, c'était filmé. Et vraiment, c'était quelque chose, moi j'ai connu des gens qui sont allés dans ces réunions à l'époque, on parle des années 50, hein, où en fait, il alignait les gens malades et un par un, il priait pour eux. Pas comme Pasteur Christ, vraiment, les gens venaient, ils parlaient avec eux et les gens étaient guéris comme ça, d'un coup. C'était très spectaculaire à voir. Et donc, moi, je connais des gens qui, maintenant, sont très âgés, ils ont 85 et poussière, qui étaient dans ces réunions-là. Ils m'ont dit, on a amené des gens malades. Il y avait des gens, par exemple, qui étaient aveugles. Et en fait, c'était assez marrant. Il était sur une scène comme ça, assis sur une chaise, en chemise. Puis ils allaient, prochain. Puis ils prenaient la personne et ils faisaient juste guéris. Des choses comme ça, très simples. Et la personne était guérie instantanément, tout de suite. Vous voyez ? Pourtant, son petit-fils est un homosexuel qui déteste l'Église. Comment c'est possible ? Donc il dit, vanité, tout n'est que vanité. L'Ecclésiaste le dit, à quoi bon faire des choses ? À quoi bon construire sur terre si derrière tout n'est que vanité ? Ça veut dire quelque chose, William Branham ? Un grand homme de Dieu aussi. William Branham, un prophète de l'époque. Un prophète de l'époque. Un grand prophète. Vous savez ce qu'il faisait, ce gars, hein ? Les gens venaient un par un, n'importe qui pouvait venir devant lui. C'est un grand homme de Dieu des années 40, c'est juste ? 40 environ, grand homme de Dieu. Et ça soutient l'idée que tout est vanité, c'est pour ça que je vous explique ça. Ce gars, il restait comme ça, debout, pendant des jours, j'ai dit des jours, pas des heures, des jours, sans aller boire, sans dormir, sans manger, sans aller aux toilettes. C'était miraculeux, il tenait comme ça, et les gens venaient un par un, n'importe qui pouvait aller devant lui. Dieu lui révélait les secrets qui étaient à l'intérieur des gens, des secrets personnels, Il voyait même, par exemple, j'ai vu ces vidéos et de nouveau j'ai entendu des témoignages de gens qui sont allés devant lui. Une fois, en général, les gens allaient pour recevoir la guérison parce qu'ils étaient gravement malades, les gens, physiquement malades. Mais ils voyaient quand même ce qui se passait dans le cœur des gens. C'était très spectaculaire à voir. Donc il se tient comme ça, c'est des vieilles vidéos, peut-être je pourrais en trouver et vous en montrer. Il est comme ça, il fait votre nom, et il voyait le nom des gens, l'adresse où ils vivaient, quand ils sont nés. Il voyait toutes les situations de leurs problèmes. Et il disait, par exemple, une fois, il y a une petite fille qui avait la tuberculose, je crois. Je crois que c'est la tuberculose. Et il a dit, je vois son nom, c'est ça, elle a la tuberculose, elle est guérie. Et instantanément, les gens étaient guéris. Tout de suite, pas de discussion. Et vous voyez un peu le niveau qu'il avait. Et pourtant, à la fin de sa vie, il est devenu hérétique. Il a commencé à dire que Ève avait couché avec le serpent, ce qui n'est bien sûr pas du tout dans la Bible. Vous voyez ? Donc même il est devenu fou à la fin de sa vie. Il a dit « Je suis Élie réincarné ». Il est devenu fou. Après, il est quand même au ciel, gloire à Dieu, parce qu'il était sauvé. Hein. Mais la question est, il a construit une chose énorme et il a vrillé à la fin de sa vie. Complètement vrillé. Comment c'est possible ? Voyons, ça nous fait réfléchir ce genre de choses. Comment est-ce qu'un homme... Ok, une seconde. Catherine Kuhlmann, c'est la même chose. Moi, je connais la dame qui travaillait avec... Vous savez qui c'est Catherine Kuhlmann, ça vous dit quelque chose ? C'est une dame de Dieu des années 70. Je connaissais la dame Jeanne Guillon. Jeanne Guillon, c'est une mystique française. Joan Gisson, ça vous dit quelqu'un, hein ? C'est la dame qui travaillait pour Catherine Kuhlmann. Elle travaillait pour elle tout le temps. Elle était toujours autour d'elle. Et c'est elle, quand Catherine Kuhlmann commença, parce qu'elle elle priait différemment, elle priait pour les gens, l'audience globale, et l'Esprit de Dieu se faufilait dans les rangs. Et il allait guérir des gens spécifiques. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça que ça se faisait. Et cette dame que je connais, Joan Gisson, je crois qu'elle est décédée maintenant, elle allait dans les rangs parce qu'elle voyait, dans son cœur, pas avec ses yeux physiques, elle voyait l'Esprit de Dieu se poser sur telle personne pour la guérir. Vous imaginez un petit peu ? Et elle m'a dit, j'ai vu des miracles, à plus pouvoir discuter. Il y avait un homme qui avait eu les jambes broyées. Vous savez ce que ça veut dire, les os liquides ? Ça veut dire que les jambes, en fait, sont tellement broyées que ce n'est plus des jambes, c'est juste comme si c'était de l'eau dedans. Alors peut-être pas au point, mais c'est comme du gravier dedans. Et Catherine Kuhlmann priait. Et l'homme était aidé par deux hommes, donc des cannes plus deux hommes qui lui maintenaient l'épaule pour qu'il puisse se déplacer parce qu'il n'avait pas la possibilité d'être en chaise roulante. Et Catherine Kuhlmann a vu l'homme de loin. Et Joan Gisson était là, elle me l'a raconté elle-même. Elle a vu l'homme, elle a fait « Lâchez-le, il est libre ». Et au moment où ils l'ont lâché, les jambes sont devenues instantanément fermes. Vous imaginez ce que ça veut dire ? On parle de ce genre de niveau, pourtant Catherine Kuhlmann est morte, elle-même dans une table d'opération. Et j'ai parlé avec l'infirmière qui était vers elle quand elle est morte. Vous savez ça ? Je ne sais pas si je vous ai raconté. J'ai parlé avec l'infirmière, qui était là quand Catherine Kuhlmann est morte à l'hôpital. Il y a eu une visitation en fait, d'ange. Beaucoup de gens ont vu des trucs qui se passaient bizarres autour d'elle. Il y a une odeur de rose qui a commencé à se répandre dans tout le truc pendant qu'elle est morte. Et il y a des gens qui ont vu l'Esprit de Dieu venir la prendre. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Oh, c'est quelque chose. Hein. Mais pourtant, tous ces gens-là, tout ce qu'ils ont construit aujourd'hui n'a presque pas demeuré. Comment ça se fait ? Aujourd'hui, le ministère de Catherine Kuhlmann est presque inexistant. Comment ça se fait que tous ces miracles ont été faits, il y a des gens... Comment ça se fait que c'est des... Je veux dire, ça dépasse l'entendement, ces miracles qui se produisaient. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien presque ? Vous vous rendez compte ? Comment ça se fait que ces généraux qui ont ouvert ces gens de miracles comme ça, comment ça se fait que l'un d'eux, leur fils, leur petit-fils, excusez-moi, est un homosexuel qui déteste l'Église ? Comment est-ce que c'est possible une telle contradiction ? Parce que tout est vanité. Tout n'est que vanité. Tout ce qu'on peut construire aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on construit quelque chose pour notre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une belle voiture, une belle maison, ou est-ce qu'on construit quelque chose pour l'éternité qui va durer avec le Seigneur ? C'est ça la question. Regardez ce qu'il dit. Oh là là. Ecclésiaste 5, verset 10. Alléluia ! Il dit, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux ? Donc il dit, vous avez des grands biens. Quel est votre avantage d'avoir des grands biens ? Tout ce que vous pouvez faire, c'est le voir avec vos yeux. Il dit, vous avez des grands biens. Génial. Tout ce que vous pouvez faire, c'est laisser vos yeux en jouir. Si vous êtes aveugle, vos grands biens, ils servent à quoi ? Vous voyez un petit peu l'idée ? C'est quand même quelque chose de beau. Hein ? Dites alléluia. Donc il dit, tout n'est que vanité, richesse, pauvreté, gloire, tout. La fin de tout est arrivée et l'Ecclésiaste finit son constat. Donc l'Ecclésiaste, il construit cette idée, vous écoutez bien, hein, il construit l'idée encore et encore. Il dit, tout n'est que vanité, mais il finit par dire, dans Ecclésiaste 12, chapitre 12 et verset 13, il finit tout son discours. Pendant 12 chapitres, il a exprimé toutes les contradictions. Riche, pauvre, ça ne change rien. Puissant, impuissant, ça ne change rien, tu vas mourir. Et il finit par dire, écoutez bien, hein, vous êtes toujours là ? Ecclésiaste 12, verset 15, pardon. Écoutons la fin du discours. Donc là, c'est vraiment les dernières lignes qu'il écrit, ce mec, de sa vie peut-être. verset 15. Il dit, écoute la fin du discours. Donc là, il dit, attention, toi qui lis, écoute bien. Écoutez, je ne vais pas dire, mais c'est l'homme le plus puissant auquel vous n'avez jamais été confronté de votre vie qui écrit ça. Hein. C'était un roi d'un pays tellement richissime. Il était multimilliardaire, multimilliardaire. Il serait même billionnaire, comme on appellerait ça. Trillionnaire. Il avait des milliers de milliards. Ecclésiaste 12 et verset 15. Il n'y a pas ? C'est parce que vous êtes sur la version NBS, c'est pour ça. Il faut aller sur la LSG. C'est la manière des fois de compter les versets qui est légèrement différente. Allez sur la LSG, vous le trouverez. Ecclésiaste 12, verset 15. C'est la même chose, par exemple, avec Joël, le livre de Joël. C'est l'exact même contenu, c'est juste qu'il y a des gens qui ont séparé les chapitres légèrement différemment. Donc, d'accord, il ne faut pas vous en faire, c'est des fois comme ça. Il dit, là, vous avez trouvé, écoutons la fin du discours, vous avez trouvé ? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc il dit, écoutez, le gars il est en train de dire, j'ai tout fait moi. Moi je l'ai fait, il explique. Je suis l'homme le plus riche de l'histoire. J'ai testé la pauvreté. Je me suis dénué de biens. J'ai testé la grande richesse. Et croyez-moi qu'il a eu de la richesse. Hein. Si vraiment vous pensez à Elon Musk et tout ça, c'est du 2%. C'est des gamins par rapport à ce qu'il a fait. Vous croyez qu'il est riche, hein, Elon Musk ? Il est riche, gloire à Dieu. En plus, hein, il a donné à la Rhapsodie des réalités, pour ceux qui ne savent pas. C'est le plus grand partenaire de la Rhapsodie. Vous avez la Rhapsodie que vous lisez ? Elon Musk donne de l'argent pour qu'on les imprime. Vous savez ça ? Eh bien, maintenant, vous savez. Gloire à Dieu. Le plus grand partenaire, celui qui a donné le plus en 2024. OK, maintenant, regardez quelque chose. Cet homme qui pesait 5 000 milliards de dollars, tellement riche qu'une femme, une fois, est venue le visiter. Une grande reine est venue le visiter. Elle lui a donné des milliards. Peut-être qu'elle lui a donné 5, 6 milliards. Et lui, il a dit, moi je te donne plus, et il lui a donné 10 milliards, elle est partie avec. Vous imaginez ? C'est un homme qui était tellement puissant que si quelqu'un venait à lui, la Bible dit qu'une femme, une reine, s'est évanouie quand elle a vu la richesse qu'elle avait. Tous les démons qui étaient à l'intérieur d'elle sont sortis. Vous imaginez quelqu'un de tellement riche qu'une reine rentre dans sa maison, elle tombe dans les pommes, tellement elle est choquée de ce qu'elle voit. Vous imaginez un peu ? C'est ce qui est arrivé avec cet homme-là. Et cet homme-là, il dit, moi je vous dis, j'ai tout fait, j'ai testé la folie, la sagesse, la pauvreté, j'ai réfléchi à tout. Je vous dis que uniquement tout homme, ce qu'il doit faire, c'est craindre Dieu et observer ses commandements. C'est la seule raison de vivre. C'est la seule chose qui vaut vraiment la peine. Il a dit, et croyez-moi, parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai envie d'être riche, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'être millionnaire. Sincèrement, lui, il l'a été bien plus que nous. Il l'a été bien plus riche que n'importe qui que vous connaissez, ou vous pouvez même imaginer connaître. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je l'ai testé, il n'y a pas de jouissance là-dedans. La seule chose. Donc cet homme-là a dit, qui préfère craindre Dieu et observer les commandements de Dieu. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur, hein, ça veut dire respecter Dieu, c'est-à-dire servir Dieu avec sa vie. Il a dit ça a plus de valeur, ça que tout l'argent que j'ai pu accumuler. Vous imaginez ? Mais vous savez quoi ? Quand vous marchez avec le Seigneur, l'argent vient automatiquement, il ne faut pas vous en faire. Dieu sait que vous avez des besoins et il les remplit toujours. Amen ? Amen ou pas ? Amen. Oh, la Bible est merveilleuse, elle nous enseigne vraiment des choses merveilleuses. Alléluia. Donc là, on va revenir juste à ce que Pierre disait. Pierre nous invite à reconnaître que la fin de toute chose s'approche. Vous savez, c'est positif aussi, parce que ce problème auquel vous faites face, la fin de ce problème s'est approchée. La question c'est, est-ce que vous allez attendre la fin des temps pour vivre cette fin de problème, ou est-ce que vous allez tacler ce problème maintenant et le régler ? Amen. La fin de notre carrière, la fin de notre vie sur terre, de notre vie de famille, mais également la fin de la maladie et de l'échec. Toutes ces choses-là, la fin de tout s'est approchée. La question, c'est est-ce que vous allez vivre maintenant avec cette conscience-là ? C'est-à-dire que vous avez des choses à construire. Dites, j'ai des choses à construire. Il est donc nécessaire de se focusser sur Christ et son œuvre finale. Écoutez bien, vous êtes toujours là ? Pierre nous demande d'être sages. Ce qui signifie littéralement avoir une pensée saine et vaquer à la prière. Construisons quelque chose qui demeure. 1 Chronique 28, verset 2. 1 Chronique 28, verset 2. Vous êtes là, ça vous plaît ? Vous savez, je comprends l'attrait, surtout pour vous les jeunes hommes, je comprends l'attrait de vouloir construire quelque chose qui dure, d'avoir une grande richesse et d'avoir grande influence. Vous vous rappelez ces grands confédérés américains qui ont libéré George Washington, qui a fait des grandes choses pour l'Amérique ? Ils ont détruit ces statues il y a peu. Ouais, il y a peu, quelques années déjà. Donc cet homme qui avait laissé un héritage énorme dans la manière de voir l'Occident a été complètement déshonoré. Croyez-moi, quelques influences que vous ayez le jour où vous tenez devant Dieu, je vous garantis que ces influences que vous pensez avoir n'auront aucune valeur. Parce que devant, excusez-moi du terme que j'ai utilisé, mais devant Dieu, on est tous défroqués. Hein. Il n'y a personne, aussi grand humain soit-il, qui va tenir devant Dieu, en soi. C'est seulement est-ce que vous avez marché dans la rédemption. Alors, nous avons dit 1 Chronique 28 au verset 2 qui dit « Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marche-pied de notre Dieu, je me préparais à bâtir. » Donc, le roi David avait l'intention de construire une maison pour le Seigneur. Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui pour nous? Prenez Éphésiens 2, verset 21. Éphésiens 2, verset 21. « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Nous sommes censés construire un temple pour le Seigneur. Mais est-ce qu'on parle d'un temple physique? Alors il y a un aspect un peu oui, vous savez, on construit une église agréable, on peut se voir, les enfants. Chut. On doit construire un temple pour le Seigneur. Bien sûr, il y a l'aspect physique, construire l'église, vous voyez, construire un lieu de culte, construire un endroit pour les enfants, ça c'est très bien, gloire à Dieu. Mais c'est surtout construire, le temple de Dieu est fait d'êtres humains. Vous comprenez? Regardez le verset suivant. « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc en fait, nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes des pierres à l'édifice. Vous comprenez? Et c'est un édifice éternel que le temple de Dieu spirituel. C'est-à-dire que toute personne que vous sauvez, que vous amenez à Christ, va devenir une pierre éternelle dans l'édifice de Dieu et qui va, attention, qui va être éternelle. Est-ce que vous voulez construire des choses qui sont éternelles ou des choses qui vont passer? Pourquoi est-ce qu'on se focus à construire quelque chose qui va disparaître dans la mesure de l'éternité? Tandis que quand on tourne des gens vers la justice, qu'on prend une personne qui est rien et on la construit en Dieu, cette personne va être éternellement avec le Seigneur. Pour toujours. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui est écrit. Nous allons continuer à explorer. Prenez maintenant 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Alléluia. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pour ça qu'on doit être riche de beaucoup d'argent. Parce qu'on doit construire les gens. Vous savez, si vous prenez une personne qui a des dettes, vous êtes censé, quand vous l'amenez à Christ, vous êtes censé payer les dettes de cette personne. Vous savez ça? Vous êtes censé être tellement riche que vous payez les dettes des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se faire avoir et être pas coordonné. Hein. 1 Corinthiens 3, verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice. » Dites l'édifice. Donc nous sommes censés construire les gens tel un édifice. C'est ça la valeur éternelle. Vous prenez une personne qui est... Vous savez, il y a un passage intéressant. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4 qui dit « Car si notre évangile est encore voilé... » D'ailleurs, c'est intéressant parce que le « encore voilé » sous-entend en grec qu'il n'est pas censé l'être. Donc il dit « Si encore il se trouve qu'il est voilé, il est voilé par le diable qui aveugle les gens. » Après, qu'est-ce qu'il dit? Les gens qui sont perdus ou qui vont à leur perte... Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est de l'actif. Ça veut dire que c'est en train d'être perdu. Les gens qui ne suivent pas le Seigneur Jésus-Christ sont en train de se perdre. Vous voyez? C'est quelque chose de toute une vie. Ce n'est pas juste on est perdu, c'est tout. Non, c'est progressivement, les gens se vont de perte en perte. Et c'est pour ça que vous allez voir que ce n'est pas impossible. Mais c'est plus dur d'amener des gens âgés au Seigneur. Parce qu'ils ont déjà tellement creusé, ils ont laissé pousser tout et n'importe quoi dans leur jardin, qu'il faut aller et tronçonner ça. Permettez l'expression. Il faut aller avec une hache pour casser tout ça. Regardez, c'est tellement simple d'amener quelqu'un qui n'a rien à Christ. Par contre, une personne qui a tout, lui dire « Ah, Jésus-Christ, il va donner plus. » Ils vont dire « Bon, écoute, j'ai déjà tout, j'ai ma voiture, j'ai mon resto. » Rien à faire. Mais c'est faux, vous pouvez briser ça. Complètement. La puissance du Saint-Esprit en vous est opérante. Regardez donc, vous laissez ces choses réelles. Regardez, vous prenez des gens et vous les construisez. Parce que cette personne qui semble avoir réussi selon les standards humains, elle est riche, elle est au conseil communal. Je ne sais pas ce qu'elle fait, vous voyez. Ah, elle est très appréciée dans la société de tir. Oh, tout se passe bien. Ok, génial. Cette personne se trouve devant Dieu un jour. Devant Dieu. On ne parle pas de... Vous voyez, on va se trouver devant Dieu, c'est sérieux. On ne parle pas de se trouver devant, je ne sais pas qui, un président, ou même le roi du monde, le président de la terre. Non, on va se trouver devant celui qui maintient l'univers en suspension. Et il va être comme ça. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on va se tenir devant lui pour une récompense. Les autres vont se tenir devant lui pour le jugement. c'est le jour le plus flippant qui va arriver à 95% de la population. Enfin, 95%, j'espère pas qu'on va changer ça, les gens vont tourner leur cœur vers Christ. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qu'on va se pointer vers Christ, à la fin du jugement, ça va être quoi notre jugement? Ça va être bienvenue au ciel. Et ensuite, il va nous donner notre récompense selon ce qu'on a fait sur terre. Non pas est-ce qu'on entrera au ciel ou en enfer, mais de quoi on va avoir comme récompense éternelle. Vous voyez? Mais on est quand même sauvés. La Bible dit que ceux qui ont construit une œuvre qui ne vaut rien devant Dieu, tant qu'ils ont confessé Jésus-Christ, ils sont sauvés. C'est juste qu'ils ne vont rien avoir au ciel, c'est tout. Ils vont arriver au ciel, Dieu va leur dire, bon ben bienvenue, mais tu n'as rien fait sur terre pour moi. Mais tu es quand même bienvenu. Mais nous, notre rôle, c'est de construire les gens pour les sauver de ça. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de construire. Il a dit « construisez l'Église ». Pourquoi il dit « construisez l'Église » Parce que quand Jésus il a dit « construisez l'Église », il disait « ériger une magnifique cathédrale ». Non, il parlait du fait de « prenez quelqu'un, prenez une personne ». On a tous quelqu'un dans notre entourage. Tout le monde a des gens dans leur entourage. Tout le monde, il y a des collègues, il y a des potes du fit, il y a toutes sortes de choses. Vous prenez cette personne, vous la construisez par des mots. Vous dites « tu peux y arriver, tu réussis, tu avances, tu progresses à tous égards ». Vous la construisez avec vos paroles. Vous savez, vous avez déjà vu ces... J'avais vu une vidéo, parce que maintenant, grâce à Internet, on est très documenté sur beaucoup de choses. Ces gens qui taillent les pierres pour construire les cathédrales. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu? Ils taillent les pierres. Donc vraiment, ils ont un bloc de granit, je ne sais pas quelle pierre, et ils le taillent comme ça. Hop, hop, hop. Ça demande du travail. Hop, hop, hop. Ils taillent. C'est très, très chouette à voir. Et ils vont mettre dans une cathédrale physique. Mais vous, est-ce que vous allez construire les gens? Il y a une pierre brute qui arrive devant vous. Une personne qui est malheureuse, défaite, sans avenir, et vous la construisez, vous dites, vous pouvez, tu peux en sortir de ça. Tu peux arrêter cette habitude méchante. Tu peux sortir de ces problèmes. Sors de ce problème. Vous l'aidez à sortir. Tu as des dettes, je vais les payer pour toi. Et vous, bam, chaque fois, c'est un petit coup que vous donnez pour que la personne devienne une pierre. Et un jour, cette pierre, vous l'amenez et vous la demandez, vous mettez devant le Seigneur. Et elle fait partie de l'édifice de Christ. C'est beau ça, hein? Et vous allez voir, cette pierre, après, elle va faire la même chose. Elle va aller construire d'autres pierres. Elle va dire, moi-même, j'ai été taillé. Elle va aller tailler quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous voyez? C'est quelque chose de beau. Vous devez construire dans la réalité de Dieu. Comprendre que Dieu vous a appelé à construire quelque chose d'éternel. Et croyez-moi, ça prend de l'argent de construire ces choses éternelles. C'est pourquoi Dieu a dit, je veux que tu sois riche. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à ses enfants, pourquoi est-ce que Dieu veut la richesse? Vous pensez que c'est pour qu'on puisse acheter des maisons? Alors, il n'y a rien de mal à avoir une maison, gloire à Dieu. Et une belle maison, si vous voulez. Il n'y a pas de mal. Même ça peut honorer le Seigneur que vous ayez une belle maison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous montrez la bonté de Dieu via votre maison. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu vous a donné de l'argent. Dieu vous a donné de l'argent pour que vous puissiez construire les autres. Faire réussir les autres. Vous imaginez? Vous payez, vous, les frais de scolarité des autres. Comme ça, ils sont construits. Vous payez, vous, les voyages des autres. Vous payez, vous, l'entreprise qu'une personne veut lancer. Vous imaginez? C'est vous qui payez ça. Et gratuitement. Pas dans le sens « j'investis », dans le sens « je te paye ». Je t'offre ça. Imaginez, c'est pour ça que vous devez prospérer, c'est pour ça que vous devez être en bonne santé. Dieu ne vous a pas donné la prospérité à la bonne santé juste pour pouvoir être assis devant la télé avec de l'argent et une bonne santé. Dieu vous a donné ces choses pour que vous puissiez construire autrui. Amen. Et Dieu s'attend à votre réussite. Donc votre but est de construire les gens. Là, vous allez avoir quelque chose d'éternel. Là, vous allez avoir une réussite merveilleuse. Amen. Regardez bien ce qui est écrit. Construire l'Église, c'est gagner des âmes à Christ, enseigner la vérité. Écoutez bien. Fortifiez les frères et sœurs. Vous avez un frère ou une sœur à l'église qui a un problème. Vous la fortifiez par des mots. Vous l'encouragez. Vous savez, vos mots sont puissants. Et vous restez unis sur le fondement de Christ. Alléluia. Dans tous les cas, nous prospérons. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez l'importance de vivre pour Dieu? Que rien d'autre, si ce n'est le Seigneur, a de l'importance. Et nous sommes censés vivre dans cette réalité. Gloire à Dieu. Ne manquez pas les cultes, par exemple. C'est très important. Les cultes, c'est là où on est enseigné pour vivre dans la victoire. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui, est-ce que vous le saviez? Une partie oui, peut-être, une partie non. Dans tous les cas, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Amen. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église. Pour apprendre. Et ensuite mettre en pratique. Donc là, vous pointez, vous arrivez au travail, vous dites, la vie de qui vais-je changer aujourd'hui? Je suis la réponse de Dieu. Aux prières d'une personne. Regardez, donc il y a une personne qui a prié Dieu dans son cœur, elle a dit, oh Seigneur, s'il te plaît, comment faire pour sortir de cette dépendance que j'ai? Boum, vous arrivez et vous la sortez de la dépendance. Une personne dit, oh Seigneur, et dit, Dieu, si tu existes vraiment, comment dois-je faire pour résoudre ce problème? Boum, vous arrivez et vous résolvez le problème. Comme par hasard. Amen. C'est ce à quoi Dieu vous a appelé pour être toujours plus que vainqueur. Et c'est pour ça que quand vous avez ça en tête, l'argent coule à flot. La prospérité coule à flot, la santé coule à flot. Pourquoi? Parce que c'est vous qui la distribuez. Vous savez que si vous débordez de santé, vous pouvez distribuer la santé. La santé est une substance. C'est pourquoi la Bible dit qu'on doit être dans bonne santé. Notez bien, là, vous vous rappelez, j'avais travaillé pour ce pasteur, un pasteur merveilleux. C'est un pasteur qui s'appelle Benny Hinn. Grand homme de Dieu, très critiqué. D'ailleurs, une chose qui m'a fait rire, une personne de ma famille déteste Benny Hinn. Et vous savez, c'est quelque chose d'intéressant parce que comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut détester quelqu'un, vous voyez ? On peut être en désaccord avec une personne sans pour autant la détester. Vous voyez un peu l'idée ? Et il m'a dit, son neveu est venu à la télé, a dit tout des trucs sur Benny Hinn, son oncle. Et en fait, tout ce qu'il a dit, moi qui ai travaillé pour Benny Hinn, je sais que ce n'est pas vrai. C'était des inventions. Il a juste inventé des trucs sur un pasteur pour le décrédibiliser. Pardon ? Et gagner des sous. Il a gagné beaucoup d'argent en faisant ça. Parce qu'il était payé, en fait, pour venir à la télé. Vous imaginez ? Et il a écrit un livre sur lequel il se fait beaucoup d'argent. Vous imaginez ? La méchanceté des gens. Et donc, Benny Hinn, il avait un truc qui était très spécial, c'est qu'il était très réel avec le Saint-Esprit. Il a vraiment la substance de Dieu qui était très réelle. Donc, des fois, il expliquait qu'il disait, je sens que ça déborde de l'extérieur de moi. Donc, c'était à l'intérieur de lui et ça sortait. C'est une substance spirituelle. Et il faisait juste comme ça sur les gens. Et les gens, ils le recevaient et ils tombaient par terre sous la puissance du Saint-Esprit. C'était quelque chose de très glorieux. Il l'avait fait avec moi une fois. Il m'a dit, Joachim, viens voir. Puis moi, je pensais qu'il voulait de l'aide pour les offrandes. Vous savez, avec les enveloppes et tout ça, pour qu'on fait la quête, n'est-ce pas ? Et je viens et il me fait, non, une seconde. Il me fait comme ça. Juste ça, il n'a pas rien dit. Il a juste libéré un truc sur moi. La puissance de Dieu est venue sur moi, je suis tombé par terre. Je ne pouvais plus me lever. Et après, j'avais le mouchoir de poche. À l'époque, je mettais un petit mouchoir de poche, mais maintenant, je ne le fais plus parce que je n'ai plus les cravates qui vont avec. C'est une discussion qu'on aura une fois avec les hommes sur comment bien s'habiller. OK ? Donc, un mouchoir de poche qui était tombé. Et il a pris le mouchoir et il l'a lancé sur des gens. Les gens sont tombés par terre, sur la puissance de Dieu. C'est quelque chose. Vous voyez, la puissance de Dieu est forte et réelle. Amen ? Gloire à Dieu. Et nous allons maintenant passer volontiers à la Sainte Cène parce que c'est le premier dimanche du mois. Volontiers, Christelle, si tu peux aller la préparer. Normalement, tout, t'es au fond vers la cuisine. Alléluia. Vous voyez à quel point Dieu vous aime. Dites, je suis la réussite. Dites-le, je suis la réussite. Les enfants, dites-le aussi. Je suis la réussite. Amen. Gloire à Dieu.